Ce n'est pas vrai qu'ils vont me laisser ici pour me réclamer à leur retour, dit Mary. Je ne me laisserai pas faire, pas question. Et toujours se répétant la même chose, il finit par s'endormir sous sa tente. Il fut réveillé par un homme qui le secouait. « Debout, debout, maître Olbitla !» lui criait-il. Sur quoi Mary, tirée d'un profond rêve, se redressa brusquement. « Il faisait encore très noir, » pensa-t-il.
« Qu'est-ce qu'il y a ?» demanda le Hobbit.
« Le roi vous réclame. »«
Mais le soleil n'est pas encore levé, » dit Mary.
« Non, et il ne se lèvera pas aujourd'hui, maître Olbitla, ni plus jamais à ce qu'on pourrait croire sous ce nuage noir. Mais même si le soleil nous est enlevé, le temps ne s'arrête pas. Faites vite !»
Mary enfila des vêtements à la hâte et regarda à l'extérieur. Le monde s'était assombri. L'air même paraissait brunâtre, toutes choses alentour étaient grises ou noires et dénuées d'ombre. Une grande immobilité régnait. On ne distinguait aucune forme de nuage, sinon loin à l'ouest, où les doigts tâtonnant des grandes ténèbres continuaient d'avancer, laissant filtrer un peu de lumière. Un lourd plafond pesait au-dessus de lui, sombre et uniforme, et la lumière semblait s'amenuiser plutôt que croître. Mary vit que des gens s'étaient assemblés, levant la tête et murmurant. Tout leur visage était gris et morne, et certains avaient peur. Le cœur serré, il se rendit auprès du roi. Irgon, l'envoyé du Gondor, y était avant lui, et voici qu'un autre homme l'accompagnait, semblable à lui et pareillement vêtu, mais plus petit et plus large. Il parlait au roi quand Mary entra.
« Cette chose vient du Mordor, sire, » dit-il. « Elle a commencé hier au coucher du soleil. Des collines de l'Estfold, aux confins de votre royaume, je l'ai vue se lever et envahir le ciel. » Et toute la nuit, comme je chevauchais, elle me suivait, dévorant les étoiles. Ce nuage immense s'étend à présent sur toutes les terres d'ici aux montagnes de l'ombre, et il s'épaissit. La guerre a déjà commencé.
Le roi demeura un moment silencieux. Puis il parla.
« Ainsi nous y voilà enfin, » dit-il. « La grande bataille de notre temps, où bien des choses périront. Mais au moins, il n'est plus besoin de se cacher. Nous irons en droite ligne, à découvert, avec toute la célérité possible. Le rassemblement se fera sur le champ et ne souffrira aucun retardataire. Avez-vous de grandes réserves, à Minas Tirith ? Car s'il nous faudra aller en toute hâte, nous devrons alléger la charge avec tout juste ce qu'il faudra de nourriture et d'eau pour nous rendre à la bataille.
Nous avons de très grandes réserves, préparées de longue date, répondit Irgon. Allégez votre fardeau et venez aussi vite que vous le pourrez.
Fais venir les héros dans ce cas, Éomer, dit Théoden, que les cavaliers soient rassemblés.
Éomer sortit, et les trompettes sonnèrent bientôt à travers le fort. Bon nombre leur répondirent d'en bas, mais leurs voix n'étaient plus aussi claires et braves qu'elles avaient paru à Mary la veille. Elles semblaient sourdes et criardes dans l'air lourd, beuglant de façon sinistre. Le roi se tourna vers Mary.
« Je pars en guerre, maître Meriadoc, » dit-il. « D'ici peu, je prendrai la route. Je vous libère de mon service, mais non de mon amitié. Vous resterez ici, et si vous le désirez, vous servirez la dame Éowyn qui dirigera le peuple à ma place. »«
Mais, sire, » balbutia Mary, « je vous ai offert mon épée. Je ne veux pas être séparé de vous de cette façon, Théoden roi. » Et puisque tous mes amis s'en sont allés à la bataille, j'aurai honte de rester.
Mais nous irons sur de grands coursiers, dit Théoden. Et si grand que soit votre courage, vous ne pouvez monter de pareilles bêtes.
Eh bien, attachez-moi sur le dos de l'une d'elles, ou laissez-moi m'accrocher à un étrier, ou je ne sais trop, dit Mary. C'est une longue route à courir, mais je courrai si je ne peux monter. Dussé-je user mes pieds jusqu'à la cheville et arriver des semaines trop tard?
Théoden sourit.
Au lieu de cela, je vous prendrai avec moi sur Snowmana, dit-il. Mais vous m'accompagnerez au moins jusqu'à Edoras pour contempler Méduseld, car c'est là que je m'en vais. Stiba pourra vous porter jusque-là. La grande course ne commencera pas avant que nous atteignions les plaines.
Éowyn se leva alors.
Allons, Meriadoc,
dit-elle.
« Je vais vous montrer l'attirail que j'ai préparé pour vous. »
Ils sortirent ensemble.
« La seule demande qu'Aragorn m'a faite, »
dit Éowyn, tandis qu'il passait parmi les tentes,
« c'est que vous soyez armés pour la guerre. J'ai fait ce que j'ai pu pour l'exaucer, car mon cœur me dit que ces choses vous seront utiles avant la fin. »
Elle conduisit alors Merry à une case au milieu des logements de la garde du roi. Là, un armurier vint la trouver et lui apporta un petit casque, un bouclier rond et d'autres effets.
« Nous n'avons pas de mailles qui vous conviennent, » dit Éowyn, « ni le temps de confectionner un tel aubert. Mais voici un justaucorps corps de cuir résistant, ainsi qu'une ceinture et un couteau. Vous avez déjà une épée. »
Merry s'inclina et la dame lui montra le bouclier, semblable à celui qu'on avait offert à Gimli. Il portait l'emblème du cheval blanc.
« Prenez toutes ces choses, » dit-elle, « et portez-les à bonne fortune. Et maintenant, adieu, maître Meriadoc. Mais il se pourrait que nous nous revoyions, vous et moi. »
Ainsi, dans une obscurité grandissante, le roi de la Marche était sur le point de conduire tous ses cavaliers sur la route de l'Est. Les cœurs étaient lourds, et ils étaient nombreux à trembler sous la menace de l'ombre. Mais c'étaient des gens de courage, fidèles à leur seigneur, et les pleurs et les murmures étaient peu nombreux, même dans le camp du fort où demeuraient les exilés des Doras, femmes, enfants et vieillards. Un destin funeste planait sur leur vie, mais ils l'affrontaient en silence. Deux rapides heures étaient passées, et voici que le roi prenait place sur son cheval blanc, clair dans le demi-jour. Il paraissait grand et fier, malgré les cheveux de neige qui flottaient sous son haut casque. Et bon nombre s'émerveillèrent de le voir, droit et sans peur. Et ils reprirent courage. Là, sur le grand espace plat au bord de la rivière tumultueuse, étaient réunis en diverses compagnies près de 5500 cavaliers armés de pied en cap, ainsi que plusieurs centaines d'hommes sur des chevaux supplémentaires légèrement chargés. Une unique trompette sonna. Le roi leva une main et, en silence, l'host de la Marche se mit en branle. Allait en tête une douzaine d'hommes de la maison du roi, cavaliers de renom. Venait ensuite le roi avec Éomer à sa droite. Il avait fait ses adieux à Éowyn sur les hauteurs du fort et ce souvenir le poignait. Mais ses pensées étaient maintenant tournées vers la route qui l'attendait. Merry chevauchait après lui sur le dos de Stiba avec les estafettes du Gondor. Et derrière eux, venaient encore 12 cavaliers de la maison du roi. Ils passèrent les longues rangées d'hommes qui attendaient, sombres et impassibles. Mais quand ils furent presque au bout de la file, l'un d'eux leva la tête et fixa sur le hobbit un regard pénétrant. « Un tout jeune homme, » pensa Merry, en lui retournant son regard, « moins grand et plus svelte que la plupart. » Il perçut l'étincelle de ses yeux gris et clairs, puis il frissonna. Car soudain il comprit que c'était le visage d'un désespéré partant en quête de la mort. Ils descendirent la route grise, suivant la Snowburna qui bruissait sur ses pierres, et traversant les hameaux de Soulhart et de Haute-Bourne, où de nombreuses femmes regardaient d'un air triste derrière des portes sombres. Et ainsi commença, sans cor ni harpe, ni musique de voix d'homme, la grande chevauchée dans l'Est, que les chants du Rohan devaient célébrer par la suite durant de longues générations. De l'ombre de Dunhart descendit au matin, suivi de ses féaux le fils du roi Thengel. Il vint à Edoras, à ses antiques halles, des maîtres de la Marche environnés de brume, sur leur montant doré un manteau de ténèbres. Alors fit ses adieux à tout son peuple franc, et à l'âtre et au trône et au lieu consacré, qui longtemps l'avait vu régner dans la lumière. Au loin s'enfuit le roi, derrière lui la peur, et le destin devant, sa féauté maintint. Tous les serments jurés jusqu'au dernier l'éteint. Saint jour et saint nuitée sur les chemins de l'Est, tous les Eorlingas Théoden entraîna. Le fol de traversant Fenmark et Firinholt, en terre de soleil mena 6000 lances. Au matin de Munebourg sous le mine d'Oluin, mur des rois d'outre-mer au royaume du sud, entouré d'ennemis tout encerclés de flammes. Le destin les poussait, les ténèbres les prirent, Cheval et cavalier, la rumeur des sabots, sombra dans le silence, ainsi chantent les chantres. De fait, la pénombre était encore plus grande quand le roi vint à Edoras, bien qu'il fût seulement midi. Il ne s'y arrêta qu'un court moment, mais grossit son armée d'une 60aine de cavaliers qui n'avaient pu se rallier à temps. Ayant déjeuné et s'apprêtant à repartir, il dit adieu à son écuyer avec des mots bienveillants. Mais Mary ne voulut pas se séparer de lui et il le supplia une dernière fois.
« Ce voyage n'est pas fait pour Stiba, comme je vous l'ai dit, » insista Théoden. « Nous nous battrons dans les champs du Gondor. Et que feriez-vous dans pareille bataille, maître Meriadoc, tout écuyer que vous soyez, plus grand de cœur que de stature ?»«
Qui sait ?» dit Mary. « Mais, sire, pourquoi m'avoir pris comme écuyer, sinon pour rester à vos côtés ? Et je ne veux pas que les chansons disent seulement de moi que j'étais toujours laissé derrière. »«
Je vous ai pris sous mon aile pour votre protection, » répondit Théoden, « et aussi pour que vous pliiez à ma volonté. Aucun de mes cavaliers ne peut vous prendre comme fardeau. Si la bataille avait lieu à mes portes, peut-être auriez-vous votre place dans les champs des ménestrels. » Mais il y a 100 lieues et 2, d'ici à Munebourg, où Denethor est maître. Je n'en dirai pas plus. »
Merry salua et s'enfuit la mort dans l'âme, mais il resta à observer les rangs des cavaliers. Déjà, les compagnies s'apprêtaient au départ. Des hommes ajustaient des sangles, vérifiaient leurs selles, caressaient leurs chevaux. D'autres levaient des regards inquiets vers le ciel bas. Un cavalier s'approcha en catimini et parla doucement à l'oreille du hobbit.
« Où la volonté ne manque pas, une voie s'ouvre, dit-on dans ce pays, » chuchota-t-il. « Moi aussi je le constate. »
Merry leva la tête et vit que c'était le jeune cavalier qu'il avait remarqué au matin.
« Où va le seigneur de la marche? Vous désirez aussi aller. Je le vois sur votre visage. » « Vous voyez juste, » dit Mary. « Vous viendrez donc avec moi, » poursuivit le cavalier. « Je vous ferai asseoir devant moi, sous mon manteau, jusqu'à ce que les prairies nous entourent et que l'obscurité nous enveloppe. Une telle bonne volonté ne se refuse pas. Ne parlez plus aux hommes et venez. » « Merci 1000 fois, » dit Mary. « Merci, monsieur, même si je ne vous connais pas. »
« Non ?» fit doucement le cavalier.
« Dans ce cas, appelez-moi Dernhelm. »
C'est ainsi qu'au moment du départ, Meriadoc le Hobbit était assis devant Dernhelm, et Winfola, son grand coursier gris, ne s'inquiétait pas du fardeau, car Dernhelm était plus léger que bien d'autres, quoique souple et bien bâti. Ils partirent donc en direction de l'ombre. 12 lieues à l'est d'Edoras, dans les bosquets de saules où la Snowburna rejoignait l'Antévière, ils campèrent pour la nuit. Puis, ils traversèrent le Fold, puis le Fenmark, où de grandes forêts de chênes poussaient à la lisière des collines sur leur droite, dans l'ombre du Halifyrienne, aux frontières du Gondor. Tandis que sur leur gauche, les brumes s'étendaient au loin sur les marécages aux bouches de l'Antévière. Et chemin faisant, des rumeurs de guerre leur parvenaient du nord. Des hommes isolés, fuyant au hasard, disaient que leur frontière orientale était assaillie, que des armées d'orques marchaient sur le Vold du Rohan.
« En avant ! En avant ! » cria Éomer. « Il est trop tard pour nous détourner. Les marécages de l'Antévière devront protéger notre flanc. Seule la hâte nous sauvera. En avant !»
Le roi Théoden quitta alors son propre royaume, et la route s'étira, mille après mille, et les collines défilèrent, le Calenhad, le Minrimon, l'Erelas, le Nardol. Mais les feux d'alarme ne brûlaient plus. Tout le pays était gris et d'un silence de mort. L'ombre ne cessait de croître devant eux, et l'espoir fléchit dans tous les cœurs.